Gironde Mag, le magazine de mon département, numéro 123, juillet, août, septembre 2018. À la une de ce numéro, société et si l'eau s'arrêtait de couler, pages 12 à 14. Près de chez vous, Austins et Blasimon, page 5. Tête de Gironde, Cédric et Antoine, duo de surfeurs, page 24. Producteur de Gironde, les fraises de Floriane, page 26. Éditorial de Jean-Luc Culez, président du conseil départemental de la Gironde.
Le département ne prend pas de vacances. L'été est enfin là. Il est temps de souffler, de rompre avec le rythme du quotidien et de se ressourcer. Pour accompagner le retour des beaux jours, le département vous propose une série de rendez-vous pour vous divertir, vous cultiver, vous dépenser et ainsi renouer avec les traditions festives qui font notre art de vivre girondin. Pour leur 16e édition, les scènes d'été vous proposent une programmation enthousiasmante, embrassant tous les champs de la culture et du spectacle vivant. Avec plus de 500 spectacles partout en Gironde, il y en a pour tous les goûts. Pour les amoureux de la nature, au travers d'une des 3000 animations proposées dans le cadre de La Nature fait son spectacle, partez à la découverte de la beauté de nos paysages et de la diversité de la faune et de la flore de notre département. Enfin, pour ceux qui préfèrent s'adonner au plaisir des sports de plein air, de la baignade ou des balades en forêt, les domaines départementaux d'Austins et de Blasimon vous proposent tout l'été de nombreuses activités de loisirs. De quoi s'évader et s'amuser dans un cadre naturel exceptionnel. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été en Gironde, riche en sorties et en découvertes.
Sommaire de ce numéro. Première partie, près de chez vous, page 3 à 11. Libournée, page 3, Médoc, page 4, Haute-Gironde, page 5, Bassin, Val-de-l'Eyre, page 6, Sud-Gironde, page 7, Haut-de-Garonne, page 8, Bordeaux, page 9, Grave, page 10, Médoc, page 11. Deuxième partie, Force solidaire, page 12 à 23, La question de l'eau, page 12, Rebond, 33, page 16, Scène d'été, 2018, page 18, Les 10 ans de lire et élire, page 20, La Prade en trois ronds-points, page 22, Troisième partie, à la découverte, page 24 à 31. Tête de Gironde, page 24. Histoire, page 26. Trésor du patrimoine, page 28. Producteur de Gironde, page 30. Les tribunes libres, expression des groupes politiques départementaux, se situent aux pages 32 et 33. Enfin, l'agenda d'événements forts sélectionnés par le département de la Gironde se trouve aux pages 34 et 35. Première partie. Près de chez vous. Libournée. Prenez le temps, prenez le petit train. Un poinçonneur d'époque, un ticket en carton, retrouvez le charme du train d'autrefois, à bord des locomotives touristiques de Guitre-Marcenais. Une balade insolite et atypique qui a enchanté plus de 3500 voyageurs l'an passé, et l'association en attend plus encore cette année, avec une nouveauté.
15h30. Ancienne gare de Guitre, départ du train, tout le monde en voiture. Direction Marcenais, en pleine forêt du pays Gabaye. Le trajet dure 1h30, aller-retour, avec une pause d'un peu plus d'une heure, laissant le temps de visiter le moulin à eau de Marcenais, de profiter, de se rafraîchir. Ce voyage dans le passé est une véritable invitation à l'évasion. « On est hors du temps !» s'exclame Lucie, accompagnée de ses petits-enfants. Depuis de nombreuses années, l'association des Amis du chemin de fer de la vallée de l'Isle veille à l'entretien et au fonctionnement touristique du petit train de cette ancienne voie ferrée désaffectée, propriété du département, ainsi que du musée d'objets ferroviaires en gare de Guitre. Et un vélo-rail. Grâce à la vingtaine de bénévoles actifs et passionnés de l'association, une partie des abords de la voie a été profondément nettoyée et dégagée, ce qui permettra aux voyageurs d'admirer des ouvrages d'art auparavant noyés dans la verdure, se réjouit Philippe Simion, son président. Après le succès du train des œufs du lundi de Pâques, qui a vu de très nombreux enfants partir à la découverte des œufs, l'association se lance dans une nouvelle saison estivale. les dimanches et jours fériés de mai à octobre, la locomotive diesel électrique de 1944 tourne à plein régime, tandis que la locomotive vapeur crache sa fumée blanche. Nouveauté cette année, l'ouverture d'un premier circuit de vélorail entre Guîtres et La Pouillade, qui devrait être testé en septembre et octobre sur une portion de voie non utilisée. Projet qui est soutenu par la communauté d'agglomération du Libournais, CALI, tourisme vert en pleine expansion. C'est une activité ludique à laquelle prennent part tous les membres de la famille, un moyen de transport non polluant, silencieux et qui utilise des structures déjà existantes. Doté de 2 postes de conduite, chacun équipé d'un frein, 5 personnes peuvent monter à bord des vélorails ou cyclodrésines. Une activité qui préserve le patrimoine historique et naturel tout en continuant à faire vivre le chemin de fer. Alors, embarquez, en famille ou entre amis, pour une virée pleine de bonne humeur.
www.trainguitre.fr. Tous les dimanches et les jours fériés de mai à octobre, départ à 15h30, retour à 18h15. Tous les mercredis du 1er juillet au 15 septembre, départ 15h30, retour 18h15. Gestion des voies confiée à l'Association des Amis du Chemin de Fer de la Vallée de l'Isle Nord-Libournais par convention annuelle. En 2018, le département contribue à l'essor de cet atout touristique, réparation des voies et passages à niveau 50 000 euros, entretien et débroussaillage 28 520 euros, électricité 1000 euros. Flash.
23 mai. La deuxième tranche des travaux de la déviation de Libourne sur la route départementale 1089 a été lancée. Le chantier aujourd'hui achevé consistait à remplacer l'ancien revêtement. Le département a financé à 100% cette seconde tranche à hauteur de 473 000 euros, ainsi que l'ensemble de la déviation, soit au total 1,18 million d'euros.
Médoc, cap sur Hourtin, cap 33. Un nouveau cap 33 s'ouvre à Hourtin cet été. Du 3 juillet au 31 août, girondines, girondins et touristes débutants ou avertis pourront pratiquer des activités sportives, avec un credo, convivialité et curiosité.
Afin de compléter les offres de loisirs et d'animation proposées durant la saison estivale, la commune d'Hourtin se lance dans l'aventure Cap 33, souligne Hélène Gerba, éducatrice communale et chef du centre du tout nouveau site d'Hourtin. Avec son collègue Pierre Lagarde, ils ont élaboré un programme dans l'esprit Cap 33 pour répondre aux besoins de tous, en famille ou en solo, à partir de 15 ans. Ils pourront tester gratuitement de nouvelles activités et les pratiquer pendant l'été à petit prix, résument les éducateurs. Nous avons développé des partenariats qui permettent d'ajouter le paddle, le canoë ou la marche nordique au programme, ajoute Pierre Lagarde, qui ne voulait pas concurrencer le secteur privé, mais plutôt le compléter. À Hourtin, tout le monde participe. Le collège, en partenariat avec le département et la commune, met à disposition le gymnase pendant les grandes vacances, et les associations locales vont proposer du tir à l'arc, du yoga, du badminton, du tennis de table, mais aussi des visites au musée d'Hourtin. Car le credo de Cap 33 n'est pas uniquement le sport, insiste l'éducateur, mais aussi la culture et l'environnement. À l'occasion de virer à pied ou sur l'eau, les participants pourront en apprendre plus sur les richesses de la réserve naturelle nationale des dunes et marais d'Hourtin. Du port à la plage. Malgré la superficie d'Hourtin, 190,5 km², qui en fait le 30e territoire communal de France, la municipalité, avec ses 2 éducateurs sportifs, a souhaité proposer une offre sur toute la commune. Il y a 14 km entre Hourtin-Port et Hourtin-Plage, alors, à moins d'être véhiculé, c'est compliqué de rallier les deux juste pour des activités, explique Hélène Gerba. Résultat, elles auront lieu en alternance, un jour sur deux, sur l'un ou l'autre site, tous les jours sauf le samedi. Pour s'adapter au mieux, l'équipe a reçu les conseils du Cap 33 de Carcan, qui existe depuis plusieurs années. Nos territoires se ressemblent. Nous avons la même amplitude d'habitants entre l'hiver et l'été. Ils nous ont beaucoup inspirés. Les estivants pourront donc choisir entre le lac ou l'océan, ou bien se rendre au village qui accueillera chaque matin des séances de remise en forme. L'île aux enfants sera aussi à la fête à l'occasion de journées découvertes, sans inscription, le 26 juillet et le 2 août dans le cadre du Cap 33 Tour. Un programme varié qui promet un été ourtinais bien rempli. À retrouver sur la page Facebook Cap 33 Ourtin et sur le site internet de la commune.
Cet article est illustré d'une photographie de Hélène Gerba et Pierre Lagarde, secondés par deux éducatrices. Ils accueilleront les sportifs amateurs ou débutants tout l'été sur les deux sites de Cap 33 à Ourtin.
Gironde.fr/Cap33.
En chiffres, 26 centres en 2018, plus de 204 000 participants en 2017, plus de 100 disciplines proposées en juillet et août. Flash.
23 avril, le président du département Jean Luglaise et Alain Renard, vice-président chargé de la préservation de l'environnement, de la gestion des risques et des ressources et des infrastructures routières, ont réuni les élus concernés pour le premier comité de pilotage du projet de contournement de l'Espar Médoc. La concertation est lancée.
Haute Gironde, vieillir et bien conduire. Rester usager de la route en toute sécurité, voilà la dernière action innovante de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées à destination des seniors. Retour sur une session de formation menée à Braux et Saint-Louis au printemps.
Conduire demeure pour la plupart des seniors le dernier symbole de l'autonomie. Pourtant, ce n'est pas un droit, mais un privilège, et avec le poids des années qui se fait sentir, certains sens et réflexes sont moins aiguisés. Dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, la candidature de La Poste a été retenue pour l'appel à initiative. Le groupe souhaitait s'engager concrètement auprès de ses usagers en développant des actions collectives de prévention autour de la sécurité routière, explique André Heredia, directeur au sein du groupe La Poste, parce que la mobilité entretient le lien social et que le lien social entretient la mobilité, l'objectif étant de garantir l'autonomie de déplacement des seniors en Gironde, de les sécuriser dans une conduite responsable et de prévenir les accidents routiers. Ainsi, certains facteurs du Nord Gironde vont bien au-delà de la distribution du courrier. Tournés vers le soutien aux aînés, ils se sont mobilisés pour une remise commentée d'un courrier expliquant la démarche auprès de 1000 personnes, le critère d'âge étant de 65 ans et plus. Évaluer ses limites. Une trentaine de seniors a répondu à cette invitation gratuite. Au programme, un parcours fatigue et addiction, des mini-conférences et la conduite sur simulateur. J'ai souhaité participer à cette matinée par curiosité, rapporte Alain, 67 ans. Je prends la voiture quotidiennement. La conduite accompagnée avec mes enfants m'avait permis de revoir certaines choses et là, j'ai été conforté dans mes connaissances du code de la route. En effet, les mini-conférences interactives abordent divers sujets. La rédaction d'un constat amiable, les facteurs de risque routier, météo, vitesse, alcool, téléphone, et les évolutions du code de la route, sens giratoire, perte de points, nouveaux panneaux. Les participants se sont également essayés au parcours équipés de lunettes permettant de simuler les effets de l'alcool, de la fatigue, des médicaments sur le cerveau en altérant la coordination et l'analyse de la situation. Enfin, le simulateur de conduite a permis, quant à lui, de réaliser plusieurs exercices afin d'évaluer ses limites pour mieux anticiper les situations à risque, vitesse, distance de sécurité, anticipation. Car si vieillir n'est pas incompatible avec conduire, le vieillissement entraîne des modifications physiologiques et psychologiques dont il faut tenir compte quand on prend le volant. Bonne et longue route. Gironde.fr/conférence des financeurs.
En chiffres, 15 000 € alloués par la conférence des financeurs, 5 000 € moyens internes à la poste. La conférence des financeurs présidée par le département, son rôle, établir un diagnostic des besoins des personnes âgées, recenser les initiatives locales, coordonner les financements autour d'une stratégie commune, 7 actions financées sur le territoire Haute-Gironde en 2017, 75 actions financées à l'échelle de la Gironde, 380 612 € de financement en 2017 sur la Haute-Gironde, 3 198 378 € à l'échelle de la Gironde. Flash.
17 mai. Le département accompagne les producteurs d'asperges du Blayais afin d'améliorer leurs outils et leurs conditions de travail à hauteur de 195 000 €. 29 exploitants ont bénéficié de ce soutien à l'investissement.
Le bassin Val-de-l'Eyre. S'évader et s'amuser à proximité. Plaisir du sport en pleine nature, des balades, de la baignade ou des pique-niques en forêt. Tout l'été, les activités de loisirs et les animations s'enchaînent sur les domaines d'Ostens et de Blasimont.
Domaine d'Ostens, loisirs et nature. Marcher, pédaler, nager, courir, respirer. À 30 minutes au sud de Bordeaux, la détente prend des formes multiples sur ce domaine de 750 hectares et 5 lacs en plein cœur des Landes girondines. La base de loisirs à elle seule comprend plusieurs buvettes et snacks, une zone de tir à l'arc, un rocher d'escalade, un parc d'acrobranches, ainsi qu'une aire de jeu. 2 plages surveillées invitent à la baignade. Il est également possible de louer sur place des VTT, des canoës, des paddles ou des pédalos. Sur ce site unique, au cœur de la forêt, les amateurs de sport de plein air pourront se faire plaisir hors des sentiers battus. Et les amoureux de nature découvriront plus de 56 espèces de libellules différentes, ainsi que des loutres, des tortues cistudes et des visons d'Europe. Des sorties encadrées par des guides naturalistes ont lieu tout l'été. Ouvert toute l'année. Entrée et parking gratuits. Baignade surveillée tous les jours de 11h à 19h entre les 3 juin et le 3 septembre. Ainsi que les mercredis et les week-ends du 4 au 23 septembre. Renseignements et réservations du lundi au vendredi de 9h à 12h30, puis de 13h30 à 17h, au 05 56 88 70 29. gironde.fr/domaine-ostens.
Objectif nage, pour se jeter à l'eau. Le département propose 10 leçons gratuites pour apprendre à nager. Que les enfants de 7 à 13 ans viennent se jeter à l'eau pour goûter aux joies de la natation en toute sécurité. Par groupe de 6 maximum, ils sont encadrés par un éducateur sportif professionnel et bénéficient d'un suivi personnalisé grâce à des séances d'une heure par jour pendant 2 semaines consécutives. Quant aux adultes, ils peuvent aussi vaincre leur peur de l'eau et apprendre la brasse, voire, pourquoi pas, le crawl. Il est demandé à toute personne inscrite de s'engager à participer obligatoirement aux 10 séances proposées. Domaine d'Ostens du 23 juillet au 3 août et du 20 août au 31 août. Domaine de Blasimont du 23 juillet au 31 août. Inscription sur gironde.fr/objectif-nage ou au 06 03 61 76 14. Flash.
7 mai, le département a décidé de lancer une grande concertation associant acteurs et habitants des 8 communes de la communauté de communes Bassin d'Arcachon Nord, Cauban. Il s'agit de repenser les mobilités sur ce territoire et de répondre à une préoccupation majeure des habitants. Appel est lancé à une démarche participative et innovante.
Sud Gironde.
Domaine de Blasimont, variété et ambiance. Au cœur de l'Entre-deux-Mers, à 50 km de Bordeaux, le domaine est un espace vallonné et boisé qui alterne forêts de feuillus, prairies et cours d'eau ombragés. Les enfants peuvent profiter du lac qui ravira autant les pêcheurs que les baigneurs et adeptes d'activités nautiques. L'eau est de bonne qualité, avec une zone de baignade surveillée et des initiations au paddle et au canoë. Classé espace naturel sensible, le domaine de Blasimont héberge de nombreuses espèces protégées. Des sentiers ont été aménagés afin de ne pas dégrader la faune et la flore. Un circuit de 5 km permet de parcourir le site et une boucle de 2 km fait le tour du lac. On y trouve également de quoi profiter en famille de moments ludiques. Une tyrolienne, un boulodrome, une aire de jeu et un stand de tir à l'arc. Pour manger, la guinguette propose un service de restauration rapide. Et pour ceux qui souhaiteraient prolonger le plaisir, le camping situé sur le site est ouvert de mi-avril à mi-octobre. Ouverture de la baignade du 24 juin au 3 septembre, tous les jours entre 11h et 19h, du 13 mai au 23 juin et du 4 au 11 septembre, les week-ends, jours fériés et mercredis entre 11h et 19h. Renseignements et réservations du lundi au vendredi de 9h à 12h30, puis de 13h30 à 17h au 05 56 71 59 62. Le programme journalier des animations est consultable au point info à la guinguette. Rendez-vous au domaine de Blasimont en Trans-Gironde avec la ligne 317 Libourne-Sauveterre de Guyenne. gironde.fr/domaine-blasimont.
Biblioplage, bouquiner, les doigts de pied en éventail. Un espace éphémère de lecture et de détente s'installe pendant l'été sur les deux sites de Ostens et Blasimont. 500 livres pour tous les goûts ont été sélectionnés, romans, BD, contes, albums, mais aussi de la musique à écouter sur place dans les transats. Les chalets seront ouverts tous les jours du 1er juillet au 2 septembre de 11h30 à 18h30, puis sur Ostens seulement durant les week-ends de septembre 8, 9, 15, 16 et 22, 23. Coordonnées biblio.gironde.fr. Flash.
12 mai, la piscine de Bazas, fermée pour travaux pendant presque 2 ans, a rouvert ses portes au public les samedis 12 et dimanche 13 mai. Les curieux ont pu découvrir la nouvelle infrastructure qui a bénéficié du soutien du département et qui a été inaugurée le 16 juin.
Eau de Garonne, soutenir les maraîchers en herbe. 7 hectares de terrain agricole pour lui tout seul, cela faisait beaucoup. Après un virage professionnel à 180%, Charles-Édouard Oxen-Hendler, devenu maraîcher et éleveur de poules pondeuses à Tresse, a inventé le tout premier coworking agricole.
Je voulais préserver le terrain familial en faisant profiter d'une terre les agriculteurs débutants qui peinent à trouver du foncier en Gironde, raconte le trentenaire. En France, un tiers d'entre eux gagne entre 340 et 380 euros par mois. C'est 2 fois en dessous du seuil de pauvreté, déplore-t-il. Pas facile d'investir lorsque le prix des terrains est élevé. D'autant que dans le département, plus de 90% des terres agricoles sont consacrées à la viticulture. Il en reste peu pour le maraîchage. C'est ainsi qu'est née la ferme de la glutamine. Plus que du coworking, l'ancien informaticien propose à ses colocs de s'installer sur le terrain pendant 3 ans pour lancer leur projet professionnel. Avec les bénévoles de l'association, il a construit de petites maisons en bois sur roulettes. 2 agriculteurs s'y sont déjà installés, Jérôme, maraîcher, et Victor, pépiniériste en viticulture. La prochaine arrivante se lancera dans l'élevage caprin. Comme lui, il voulait redonner du sens à leur travail et à leur vie. De la fourche à la fourchette. Après 5 mois de pluie, les premières plantations ont pris du retard, signe d'un changement climatique et d'une urgence de revoir nos façons de produire et de consommer, souligne le fermier militant qui défend une production sans déchets. À l'huile de coude, ils ajouteront la force du mollet pour faire avancer la charrue à pédales et le vélo-tracteur. Une éolienne et un récupérateur d'eau garniront chaque parcelle. Le projet de la glutamine permet aussi aux maraîchers en herbe de développer leur circuit de distribution en créant une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, dès le début du projet pour fidéliser les consommateurs. Pour cela, les cultivateurs peuvent compter sur les 600 adhérents de l'association. Certains sont comptables, juristes, d'autres travaillent dans la distribution. Leurs conseils permettent un accompagnement vraiment global, détaille Charles. La glutamine accueillera aussi une ferme pédagogique, un centre de formation et même un théâtre. Pour faire rentrer la beauté à la ferme et soutenir des troupes qui manquent de locaux. Les voisins sont conquis. Grâce aux bouches à oreille, des particuliers nous ont donné 15 hectares de terrain et prêté 50 autres autour de Tresse. Les portes s'ouvrent peu à peu aux lauréats du trophée Agenda 21 du département. Certaines municipalités nous demandent de l'aide pour installer des producteurs sur leur territoire. Une belle victoire. gironde.fr/la-gironde-saint-vente sans apostrophe.
La ferme de la glutamine fait partie des initiatives mises en avant dans le film documentaire de 56 minutes « Ici et maintenant, la Gironde s'invente ». Dans ce documentaire qui sera diffusé dans les cinémas de proximité et pourra être projeté à la rentrée dans les collèges, on rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent pour soutenir l'environnement et l'avenir de leur territoire. Le long métrage produit par le département a été réalisé par Chloé Legrand et Olivier Dezania de l'association DASQ et d'ailleurs. DASQ, D'ASQUES. Flash.
28 avril, les travaux du pont Eiffel à Saint-Vincent-de-Paul ont été inaugurés. Ce vaste chantier a permis de consolider l'ouvrage, mais aussi de mettre en place un nouveau cheminement qui permet le franchissement de la Dordogne à vélo. Le département a financé cette opération de réhabilitation à hauteur de 25 millions d'euros, avec une participation de l'État de 16 millions d'euros.
Bordeaux, Collège Goya, Histoire et Pédagogie du Futur. Situé au centre de Bordeaux, proche de la place Péberlan, établissement d'excellence, le collège Francisco Goya cache derrière sa silhouette art déco une autre facette, celle d'une pédagogie moderne et inclusive pour des élèves venus des quatre coins du monde.
Fort de son expérience multiculturelle, le collège Goya verra naître dès la rentrée 2018 une section internationale chinois, SIC, pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine. La création de cette section garantira encore plus d'ouverture socio-culturelle pour les élèves de l'établissement en faveur de la réussite. À Goya, c'est dans cette bâtisse chargée d'histoire qu'entrent tous les matins, de bonne humeur, les 250 élèves, cartables sur le dos et rêves plein la tête. Ce collège bordelais, atypique et au service de la réussite de ses élèves, comme le qualifie son principal Franck Martin, accueille chaque jour des enfants et des adolescents de 32 nationalités différentes, leur proposant un immense panel d'activités scolaires et extrascolaires, en plus des cours traditionnels. Au collège Goya, explique-t-il, nous pratiquons une pédagogie inclusive, c'est-à-dire que nous accueillons tous les élèves, quelles que soient leurs origines, leurs attitudes, et nous les menons en 4 ans au meilleur de leur potentiel. Écrire un projet social commun. Pour Franck Martin, qui a pris ses fonctions au mois de septembre 2017, il n'y a aucun doute. La mixité représente une grande richesse éducative pour les élèves, et c'est elle qui leur permet d'avoir un regard plus mature et plus avisé sur le monde. C'est peut-être cela la clé de la réussite, finalement. Chaque année, cet établissement, inscrit dans le dispositif du réseau d'éducation prioritaire, REP, atteint de beaux scores de réussite au brevet des collèges. Il intègre aussi une vingtaine d'enfants non francophones au sein d'une classe UPE 2A, soit unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, ou comment faire rimer avec brio éducation, inclusion et passion. gironde.fr/collège au pluriel.
En chiffres, 256 élèves à la rentrée 2017, 23 élèves en moyenne par classe, 88 000 euros de travaux de maintenance déjà financés par le département, 147 000 euros de travaux de maintenance prévus dans les années à venir. Flash.
17 mai. Le département accompagne 250 allocataires du RSA à la Maison de l'Emploi de Bordeaux. Une somme de 86 965 euros est votée pour aider ces personnes dans leur projet.
Grave. Au Bourgaille, la nature fait son spectacle. Dans le cadre du programme d'été du département, la nature fait son spectacle. Des visites guidées sont proposées sur deux sites à Pessac, la forêt du Bourgaille et le bois des sources du Peugue. Découverte.
La forêt du Bourgaille, c'est d'abord un vrai concentré de nature aux portes de l'agglomération bordelaise. Feuillus et résineux s'y disputent la vedette quand ce ne sont pas les genêts, les ajoncs ou les houx qui s'en mêlent. Dans ce monde du vivant, le visiteur reste aux aguets, à l'affût des animaux du lieu, et il s'ébahit à la rencontre fortuite avec un écureuil, pas effrayé pour deux sous d'avoir été dérangé. Quant au bois des sources du Peugue, piétons, deux roues et cavaliers s'y partagent un superbe espace de découverte avec un plan d'eau, lieu d'observation privilégié. Prendre conscience de la biodiversité. Parmi les visites guidées, celle de la forêt du Bourgaille permet de partir à la découverte de l'histoire du site et de sa reconversion au fil des aménagements forestiers, ainsi donc que de sa faune et sa flore. Des cheminements thématiques sont proposés. La serre tropicale est gage de dépaysement à travers ses collections de plantes. Le promeneur peut, s'il le souhaite, emboîter le pas d'un guide naturaliste à la recherche des élégantes libellules esknes qui vivent sur place en parcourant les abords des plans d'eau. Il pourra également observer des papillons en lisière de forêt ou des insectes pollinisateurs grâce à l'accueil posté, observation à un endroit fixe. Laurent Rousserie dirige l'association Forêt du Bourgaille, participant avec la ville de Pessac à la gestion du site. Il est aussi guide naturaliste pour le département, l'institution étant très impliquée dans l'essor du Bourgaille. Il explique « C'est une façon d'aborder la nature par d'autres portes. Cela permet aux visiteurs de prendre conscience de la biodiversité et de l'importance de la préservation de ce patrimoine naturel qu'est la forêt du Bourgaille. Ce qui est le cas d'Olivia et de sa fille Jeanne. Nous étions déjà venus pour le printemps du Bourgaille et à l'école, les enfants sont très sensibilisés. Un programme d'activité et un guide nature du Bourgaille sont d'ailleurs distribués lors des visites. Dans le cadre de « La nature fait son spectacle », il faut savoir que plus de 3000 animations nature sont organisées à travers la Gironde par le département, aux côtés de 30 structures partenaires et sur 70 lieux différents. Le programme des activités proposées en Gironde est accessible sur gironde.fr/nature. Écosite du Bourgaille, 05 56 15 32 11. contact@bourgaille-pessac.fr www.bourgaille-pessac.fr bus 4 et 23 arrêt Beau Séjour.
Flash.
20 mai, le festival ODP qui bénéficie du partenariat du département a réuni 17 000 spectateurs sur 3 jours du 18 au 20 mai sur les pelouses du parc du château Peix Loto à Talence. Les bénéfices de l'événement musical sont reversés aux orphelins des sapeurs-pompiers.
Porte du Médoc, aire de la Chaille, réaménagement 100% innovant. Un large éventail de partenaires et un projet combinant l'insertion, la formation et l'amélioration de l'habitat, le réaménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage à Mérignac, qui sera achevé fin juillet, aura permis de relever de nombreux défis en termes d'innovation sociale.
Utile sous toutes ses formes, le chantier d'insertion de l'aire des gens du voyage de la Chaille à Mérignac aura été un projet 100% fructueux. Suite à la phase de concertation lancée auprès des habitants de l'aire en 2017, le département, via la Maison départementale de la solidarité et de l'insertion, s'est associé aux acteurs concernés par sa gestion pour entreprendre son réaménagement de façon innovante. Ce chantier a concilié la dimension de l'insertion, de la formation et de l'amélioration de l'habitat des gens du voyage. Pouvoir allier tous ces leviers et autant d'acteurs, c'est une première. S'enthousiasme Thierry Lescure, responsable territorial de l'insertion. Aux manettes du projet, la métropole de Bordeaux, le pôle territorial de solidarité Porte du Médoc, situé à Mérignac, PTS, le centre social de Beutre, le service de prévention spécialisé du Prado, la ville de Mérignac
et l'association départementale des Amis des Voyageurs, ADAV 33.
Le département a partagé avec la région les coûts de formation des stagiaires à hauteur de 41 300 euros. Depuis décembre et jusqu'à fin juillet, une dizaine de stagiaires s'activent chaque jour sur l'air avec un objectif, l'extension et le réaménagement des blocs sanitaires. Fondation, coffrage, montage des murs, l'idée est de fermer les espaces afin de protéger les utilisateurs et de les isoler du froid. Malgré un hiver pluvieux et plusieurs défis techniques, quatre blocs ont déjà été réaménagés. Des équipements vont y être installés, comme des machines à laver, des tables et des chaises pour plus de confort. Habitants et maçons. La particularité de ce chantier est que les maçons stagiaires, tous en phase d'insertion, débutent dans le métier. Allocataires du RSA, leur parcours de vie les ont éloignés de l'emploi. Ils reprennent, grâce au chantier, le chemin du travail. Cette expérience est un bon test pour les remettre dans une dynamique et voir si ce type de métier les intéresse, reprend Sophie Bondier, directrice des Compagnons Bâtisseurs. Au bout de 7 mois, en plus de leur expérience de terrain, ils reçoivent une qualification. Plus de la moitié d'entre eux retrouveront un emploi à l'issue de la formation. Sur l'aire de la Chaille, c'est d'ailleurs un partenariat gagnant-gagnant qui a convaincu les habitants. Certains des maçons stagiaires sont des résidents de l'aire, ajoute Sophie Bondier. C'est une des véritables valeurs ajoutées du projet. Ils participent à l'amélioration de leur habitat et ressortent avec un diplôme.
Flash.
17 mai. Le département s'engage pour soutenir l'accueil des jeunes enfants. 19 980 euros permettront ainsi à la commune de Mérignac de construire une halte-garderie et une maison de la petite enfance. Ces aménagements permettent de répondre aux besoins croissants des familles.
Deuxième partie, force solidaire. Société, et si l'eau s'arrêtait de couler? Le bassin aquitain est terre d'eau et son essor est étroitement lié à cette ressource naturelle. En Gironde, la disponibilité de l'eau en fait un département particulièrement privilégié. Pour autant, les nappes profondes sont très sollicitées, avec 150 millions de mètres cubes qui y sont prélevés chaque année, dont 120 millions servent directement à alimenter les Girondins en eau potable. S'il appartient aux communes et à leur regroupement de gérer le service public de l'eau, le département travaille depuis plus de 20 ans à la préservation de ce bien commun. Lors d'une table ronde le 14 mai dernier, le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, a convié à débattre plusieurs acteurs qui interviennent sur cette question de l'eau.
Il y a plus de 20 ans, Gironde Mag titrait en couverture « Eau, péril en sous-sol ». L'objectif était de sensibiliser les lecteurs à la fragilité d'une ressource naturelle pourtant abondante et reconnue de bonne qualité, protégée naturellement des pollutions de surface. Alors, dans l'intervalle de 20 années, avec la volonté toujours plus affirmée de préserver ce bien commun, le département s'est attelé à rechercher des solutions pour alléger les prélèvements, mais aussi pour inviter les citoyens, comme les entreprises, à un usage raisonné d'une richesse que nous empruntons aux jeunes générations. volontaire dans ce domaine, le département s'est positionné comme un expert auprès des exploitants de l'eau potable. Cette coopération étroite vise la préservation, mais aussi la maîtrise du prix de l'eau. Là, comme dans d'autres secteurs clés de l'environnement, il est essentiel de savoir se projeter dans le futur pour anticiper les tendances inéluctables du climat et de la croissance démographique qui marquera la Gironde. En 2018, rappelons que l'observation des nappes profondes par le département a tout juste 60 ans. C'est dire si les informations abondent. D'ailleurs, en septembre, une journée autour de l'eau marquera cet événement. Eau courante, stop ou encore? Lors de la table ronde du 14 mai à Bordeaux, le président Jean-Luc Glaize a rappelé le contexte.
Il faut savoir que 98% de l'eau potable en Gironde provient des nappes profondes. C'est un fait unique en France. Si nous sommes privilégiés, nous impactons une ressource qui est indispensable aux générations qui vont nous succéder. C'est pourquoi j'ai souhaité que sur la feuille de route politique du département, la question de l'eau soit prioritaire. C'est un travail de sensibilisation et de soutien technique de longue haleine. Il passe par une mission d'information auprès des citoyens, mais aussi de nos propres services. Il nous permet de lutter contre le gaspillage avec nos partenaires publics pour éviter en particulier les pertes d'eau ou les fuites dans les réseaux. Cette volonté prend la forme d'actions très concrètes. Nous avons ainsi contribué à réduire de 36% la consommation d'eau dans les collèges entre 2008 et 2016. Nous avons limité cette même consommation dans nos bâtiments publics et le SMEGREC a distribué dans le cadre de notre projet commun MACO 80 000 éco-kits aux citoyens permettant une économie directement depuis le robinet. Pour autant, il ne faut pas relâcher nos efforts. Nous devons faire face au réchauffement climatique et donc à la diminution des réserves en eau. Nous accueillons en Gironde 20 000 habitants de plus par an et ce phénomène a des conséquences en termes de consommation et d'usage. Nous devons rester vigilants car les réseaux de distribution vieillissent et l'eau, c'est aussi une dépense d'argent public conséquente quand on veut en préserver la quantité et la qualité.
Le projet commun MACO évoqué ci-dessus par le président Glaize est financé à 50% par Europe Life, à 30% par le département de la Gironde, 20% par l'agence de l'eau Adour-Garonne et 10% la région Nouvelle-Aquitaine.
Alors, est-ce à dire que le risque de voir l'eau du robinet s'arrêter de couler reste une hypothèse plausible? Didier Audouat, directeur du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement des deux rives, ne tient pas à minimiser le risque. Précisons que son syndicat, situé à Podensac, regroupe 11 communes et dessert 13 605 habitants, dont 6 290 abonnés en eau potable et 4 621 abonnés en assainissement collectif. Données 2017.
Tous les réseaux d'eau en Gironde ont été construits à la même période, des années 50 aux années 70. Leur durée de survie est estimée à 100-110 ans. Si on ne renouvelle pas 1% des canalisations par an, on risque de léguer une catastrophe aux générations futures. Il faut apprendre à anticiper pour lisser les investissements. Un réseau d'eau, c'est un patrimoine et il a un coût. Chaque accident climatique démontre la fragilité de nos installations.
Bruno de Grissac dirige le syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau de la Gironde, SMEGREG. Hydrogéologue de formation, il précise.
En Gironde, nous sommes des enfants gâtés car l'eau est omniprésente. Pour les nappes profondes, nous ne prélevons pas trop, mais nous prélevons mal. Par facilité, nous avons concentré nos prélèvements près des centres de vie. Le défi est de mieux répartir nos pompages sur l'ensemble du territoire. Les nappes profondes constituent un patrimoine unique mais inconnu du grand public, car elles sont invisibles. Il y a peu de risques que l'eau s'arrête de couler en Gironde. J'en veux pour preuve que même lors de la tempête de décembre 1999, si tout était bloqué et que l'électricité était coupée, personne n'a manqué d'eau.
Renchérit Dominique Nicolas, président du Centre Ressources d'écologie de Nouvelle-Aquitaine, CREPAC, association environnementale représentant les citoyens.
Mais,
ajoute-t-il,
le danger est surtout qualitatif. Nous devons nous méfier des facteurs de pollution et, pour n'en citer qu'un, les pesticides.
Nicolas Pédron, directeur régional du Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, en appelle lui aussi à l'observation du changement climatique.
Avec la hausse annoncée de 1,2 degré des températures, les sécheresses estivales vont s'accentuer et avoir un effet sur les nappes. De vrais problèmes peuvent alors se poser sur le long terme si nous ne savons pas anticiper.
D'accord, Bruno Leménager, délégué régional de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, partenaire historique du département sur la question.
Le changement climatique représente un vrai défi à relever, avec des ressources en eau qui vont s'amoindrir. Plus de 90% de l'eau, en Gironde, vient du sous-sol, de nappes qui ne se reconstituent pas au même rythme que la consommation.
Pour Bertrand Alice, directeur des régies municipales de Bazas, exploitant les services publics d'eau potable et d'assainissement locaux, la plus grande vigilance s'impose.
Il faut non seulement faire attention à la qualité et à la quantité de l'eau, mais aussi aux équipements, aux anciens qui peuvent casser et aux nouveaux dont les matériaux pourraient être néfastes à la consommation.
L'art de la pédagogie. Prudence, vigilance et engagement des élus, mais le message n'est pas si évident à faire passer auprès du grand public. Jean-Luc Glaise souligne.
C'est une question complexe qui passe aussi par une interdépendance des territoires. La métropole est un moteur économique, mais elle a besoin de la population qui vient du rural et de sa ressource en eau. Cela invite à une gestion commune équilibrée. Nous devons faire preuve d'une grande pédagogie pour que cette problématique de l'eau intègre les préoccupations quotidiennes de chacun.
Il faut passer par les enfants. Ils sont très réceptifs et sont d'excellents relais auprès de leurs parents. C'est difficile de communiquer plus globalement. Les médias évoquent les problèmes liés à l'eau en période de canicule, mais dès qu'il pleut, la population a le sentiment que tout est réglé.
Commente Bruno de Grissac, sentiment partagé par Nicolas Pédron.
L'information scientifique est délicate à manier, mais le milieu scolaire est un bon vecteur pour atteindre ensuite les adultes.
Dominique Nicolas, quant à lui, n'est pas sur la même ligne.
La responsabilité doit d'abord porter sur les adultes. Les collectivités doivent avoir un comportement exemplaire avec une politique volontariste de maîtrise de consommation. Alors, le citoyen sera pleinement réceptif et actif.
Comment ça marche? Combien ça coûte? Afin que le message passe clairement, encore faut-il que chacun comprenne facilement comment fonctionne le cycle de l'eau. Celui qui part de la source vers le robinet et celui qui permet, ensuite, de recycler l'eau de consommation courante. Simple pour Didier Audouin.
En Gironde, on creuse un trou, on y met une pompe qui permet de récupérer l'eau, qu'on envoie ensuite vers un centre de traitement, puis vers un château d'eau. Ensuite, l'eau est acheminée vers les maisons. Dans les châteaux d'eau, l'eau est stockée en hauteur par rapport aux habitations. Ainsi, la distribution peut continuer, même en cas de sinistre avec coupure d'électricité.
Ajoute Bruno de Grissac. Quant à l'assainissement ?
L'eau salie est dirigée vers la station d'épuration. La partie sale compose les boues, la partie propre retourne au milieu naturel.
Précise Didier Audouin. Question qui fâche, enfin, le prix de l'eau, souvent dénoncé ou montré du doigt. Les invités du débat ont évidemment leur avis sur ce sujet. Dominique Nicolas enfonce le clou.
On ne peut pas ignorer que des groupes privés font des profits sur ce qui est pourtant un bien commun. Mais nous sommes face à un vrai dilemme. Si le prix est trop bas, il encourage à gaspiller la ressource.
Pour Nicolas Pédron, l'affaire est entendue.
L'eau du robinet reste peu onéreuse.
Bruno Leménager confirme.
L'eau de source en bouteille est 750 fois plus chère que celle du robinet.
Bertrand Alice, quant à la gestion locale de l'eau, précise.
À Bazas, le prix de l'eau est constant. Mais nous envisageons une tarification progressive.
Plus largement, Bruno de Grissac tient à ajouter.
L'eau a un coût et une valeur. L'eau des nappes profondes, qui n'a pas besoin d'être traitée, nous offre une très grande sécurité sanitaire. Elle n'est donc pas chère au regard de sa très grande valeur.
Pour conclure, un débat riche et loin d'être clos. Jean-Luc Glaise a rappelé que l'eau a bien une histoire et du sens.
Autrefois, il fallait aller au puits, produire un effort pour obtenir de l'eau. Aujourd'hui, nous assistons à une banalisation de l'eau potable fournie à domicile. Le prix doit rendre compte de la merveille du service qui consiste à apporter l'eau directement au robinet. La conscience de chacun s'éveille quand on rencontre plus de difficultés à produire. Le coût est une nécessité pour rendre compte du service. Nous devons considérer le grand privilège qui est le nôtre de disposer de l'eau courante. Il n'est pas largement partagé à l'échelle de la planète. La question du bien commun de l'eau est un sujet d'avenir.
En chiffres, en Gironde, 93 collectivités, dont 44 communes, 45 syndicats, 2 communautés de communes, 1 communauté d'agglomération et la métropole maître d'ouvrage pour l'eau potable, 698 003 abonnés, 150 millions de mètres cubes prélevés par an dans les nappes profondes, dont plus de 120 millions de mètres cubes d'eau potable, soit 98%. 36% de réduction de la consommation d'eau dans les collèges entre 2008 et 2016. 17 euros, c'est la facture moyenne mensuelle d'eau potable par abonné girondin, consommant 100 mètres cubes par an.
En Gironde,
la nature fait son spectacle.
Plus de 3000 animations nature près de chez vous.
Programme 2018, gironde.fr/nature.
Gironde, le département. Insertion, rebond 33, un tremplin pour entreprendre. Depuis janvier 2017, le département renforce son soutien à l'insertion professionnelle à travers une aide à la création ou à la reprise d'activité. Rencontre avec Joy Esno et Lionel Chéreau, qui ont bénéficié du dispositif Rebond 33 pour lancer leur projet.
Une sellerie équine dans le Langonnais. Joy Esno a 27 ans. Originaire de Dordogne, elle s'est installée dans le Langonnais par amour. J'y rejoins mon compagnon, mais je ne suis pas parvenue à trouver d'emploi correspondant à mes compétences. Cavalière, depuis l'âge de 7 ans, Joy a eu sa première jument à 13 ans. Elle a, à son actif, de nombreuses expériences dans l'univers équin, y compris la délicate activité de déboureur qui consiste, non sans risque, à amener le cheval à accepter un cavalier et une selle sur son dos. Je me suis retrouvé au chômage, j'étais prête à prendre n'importe quel travail, mais une conseillère de Pôle emploi m'a orienté vers une reconversion en lien avec mon expérience. Une formation de sellier harnacheur qui lui permettra de créer une entreprise de sellerie équine, afin de réparer et fabriquer des équipements essentiellement destinés à la chasse à cours ou aux courses et aux sauts d'obstacles. Pour pouvoir lancer son activité, elle se fait accompagner par l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique soutenue par le département, qui lui permet également d'obtenir un microcrédit, 4 000 euros, et un prêt d'honneur, 2 000 euros. Elle bénéficie par ailleurs d'une subvention Rebond 33 de 2 000 euros. J'ai pu acheter l'outillage indispensable, notamment ma machine à coudre, un compresseur et une agrafeuse à air comprimé. Joy Esno travaille avec des matières locales. Le cuir qu'elle utilise provient d'une tannerie de Dordogne. Avec son positionnement haut de gamme et ses prestations sur mesure, elle a localement peu de concurrence. C'est plutôt de l'entraide, confie-t-elle. On s'envoie des clients. Joy a son numéro de SIRET, système d'identification du répertoire des établissements, depuis mai 2017. Elle est installée dans les locaux de l'association des artisans d'art de Saint-Symphorien, et son carnet de commandes affiche souvent complet. Arrivée dans le Langonnais par amour, elle y restera par passion. Joy Esno, 6 rue Louis Labrousse, 33 210 Langon.
Rebond 33 est une aide individuelle qui soutient l'insertion sociale et professionnelle des publics relevant des politiques de solidarité du département. Ce dispositif s'adresse aux bénéficiaires du RSA, aux travailleurs handicapés, aux jeunes de moins de 26 ans, aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux bénéficiaires de l'aide sociale départementale. La subvention est décidée sur consultation d'un comité réunissant les professionnels de la création d'activités et de l'insertion professionnelle. Elle est conditionnée à un accompagnement technique effectué par un partenaire du département. L'aide est calculée en fonction des investissements prévisionnels nécessaires au démarrage du projet avant la création ou reprise de l'activité. Son montant est de 35% des dépenses éligibles et plafonné à 5 000 euros. gironde.fr/rebond33.
Un commerce à Gradignan. Lionel Chérault vivait en Polynésie. Il y a 3 ans, il pose ses bagages dans le Médoc où il prend d'abord une pizzeria en gestion avant de changer de cap. Il est alors allocataire du Revenu de solidarité active, RSA, et peine à trouver un emploi stable. Je suis dans le commerce depuis l'âge de 18 ans. J'ai passé l'essentiel de ma vie à mon compte, raconte-t-il. Pourquoi ne pas continuer ? J'ai appris que les douanes avaient validé l'ouverture d'un tabac sur la commune de Gradignan, mais que le porteur de projet avait dû renoncer. Un quartier agréable, une rue passante et une bonne dynamique commerciale alentour l'incitent à se positionner. Accompagné par Gironde Initiative, il bénéficie d'un prêt d'honneur de 7 600 euros, doublé d'un prêt bancaire de 45 000 euros. Quand je suis arrivé dans ce local, il n'y avait que les 4 murs, même pas de chape, tout restait à faire. Entre les demandes d'autorisation et les travaux, cela m'a pris 8 mois. Il fallait encore constituer un stock de démarrage. Lionel Chérault a reçu la subvention maximale du dispositif Rebond 33, soit 5 000 euros, qui l'a fortement aidé. Son commerce a ouvert ses portes le 28 avril 2017. Il propose tabac, jeux, cartes postales, mais aussi quelques articles complémentaires, papeterie, cigarettes électroniques, bijoux, encens et un petit coin boisson aménagé. Lionel souhaite encore diversifier son activité très prochainement.
La tablette numéro 88.
Le bouche à oreille fonctionne. Mon chiffre d'affaires progresse tous les mois. Comme je n'ai pas le droit de faire de la publicité, cela se fait petit à petit, mais j'espère bien pouvoir embaucher quelqu'un à mi-temps dans quelques mois. Allez, je retourne servir. Le tiercé n'attend pas. Lionel Chérault, 124 route de Léognan, 33-170 Gradignan.
En chiffres, 74 projets aidés depuis la création de Rebond 33 en janvier 2017. 188 727 euros. C'est le montant total des subventions attribuées de janvier 2017 à mai 2018. 2561 euros, c'est le montant moyen des subventions versées.
Point de vue de Denise Grélard-Nédélec, vice-présidente chargée de la politique de l'insertion, et Bernard Castagnier, vice-président chargé de l'attractivité territoriale, initiative économique locale et tourisme.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chacune, chacun peut rencontrer des difficultés de parcours. Notre objectif est d'accompagner les personnes qui font face à des embûches pour les aider à les surmonter.
Mieux, c'est le cas du dispositif Rebond 33, nous donnons un coup de pouce à leurs idées et à leurs initiatives. Et les résultats, aujourd'hui, parlent d'eux-mêmes.
Culture, scène d'été, 500 spectacles partout en Gironde. La 16e édition des scènes d'été joue la carte du rayonnement culturel. 62 festivals et 15 compagnies vont faire vibrer la Gironde aux échos d'événements aussi divers qu'enthousiasmants, embrassant de nombreux champs du spectacle vivant. 6 nouveaux festivals font d'ailleurs leur entrée cette année, autant de temps fort pour le plaisir de tous, de juin à septembre. Et voici les 15 compagnies.
Apostol Cumbia.
Aiwa. Compagnie El Mundo Costrini, Compagnie Fluo, Compagnie Née d'un doute, Compagnie Mécanique.
Éric Baron, Valérie Capdepont, Joanne-Luc Madière.
Florence Arribé.
Floriane Tiozzo.
Immo.
Les Lacets des Fées.
Mike Starnight.
Perry Gordon. et His Rhythm Club.
Romano Dandies.
Shob and Friends.
Les 62 festivals.
Île Nouvelle.
La nature fait son spectacle.
La fête à Léo.
Les escapades musicales.
Fest baroque, musiques anciennes.
Un été au Grand Parc.
Nuit atypique.
Saison musicale.
Festi Lali.
Musique itinéraire en pays foyen.
Dansons sur les quais.
La bataille de Castillon.
Exposition d'art contemporain.
La piste sous les étoiles.
Échappée belle.
Chahut.
Musique à pile.
Jazz 360.
Jazz and Blues Festival.
So Good Fest.
Festival international de la céramique.
Vie sauvage.
Régula.
Fifre de Garonne.
Scène buissonnière.
Aisin Goes Soul.
Côté jardin.
Estival de musique en Médoc.
Festival des Hauts de Garonne.
Confluent d'art.
Jal House Rock.
Celtiteuillac.
Festival Rue et Vous.
Les 24 heures du swing.
Les grands crus musicaux.
Les plages pop.
Rencontres musicales internationales des Graves.
Vivacité.
Saint-Émilion Jazz Festival.
Estival de la BD.
Rencontres musicales et lyriques.
Andernos Jazz Festival.
Rencontre des bateaux en bois.
Festival de Jansac.
Les échappées musicales du Médoc.
Festival Voûtes et Voix.
Fest Art.
Reggae Sun Ska.
Festival Flamme.
Le chemin des mémoires.
Estejada de las Art.
Offenbach à Bari.
Musical Océan.
Les Odyssées.
Balade en Cadillac.
Black Bass Festival.
Simone pète les watts.
Vino Voce.
Ouvre la voie.
Le haillant est dans la place.
D'ici danse.
Les riches heures de la Réole.
La page 19 de Gironde Magazine représente une carte du département portant indication de tous ces festivals et des lieux où ces différentes troupes se donneront en spectacle. Flash en chiffres. 8,5 millions d'euros, le poids économique des festivals labellisés scènes d'été en Gironde. 360 000 spectateurs en 2017. Plus de 500 spectacles dont 75% de la programmation accessible gratuitement. 200 communes et communautés de communes partenaires. Plus de 4,300 bénévoles mobilisés. Point de vue d'Isabelle Dexpert, vice-présidente chargée de la jeunesse, culture, sport et vie associative.
Les scènes d'été démontrent une fois de plus la volonté du département de rendre la culture accessible à tous. Avec une programmation éclectique qui s'inscrit au cœur des territoires, nous accentuons nos actions en direction du plus large public possible et nous confortons notre soutien à l'emploi culturel comme aux associations. Au-delà de ce temps fort estival, notre appui à la vie culturelle girondine permet de créer plus de 1000 projets par an sur l'ensemble de la Gironde. Résolument, la culture est avant tout une question d'engagement.
Lecture pour tous, lire et lire souffle ses bougies. 10e édition de Lire et lire, et accent grave L-I-R-E bien sûr, plus de 2000 jeunes lecteurs girondins de 6 à 16 ans, invités par le département de la Gironde et sa bibliothèque départementale, biblio.gironde, ont voté dans la joie et la bonne humeur, sous la houlette sympathique de leur bibliothécaire pour leur livre préféré.
Créé dans l'environnement du réseau des bibliothèques partenaires de biblio.gironde, cet événement littéraire fédérateur en Gironde, en direction des jeunes publics, permet de promouvoir et de valoriser la lecture comme source de plaisir, d'échanges et de rencontres, explique Anne Maury, responsable de la coordination de l'Action culturelle 1. L'enjeu est simple, convier les jeunes lecteurs inscrits dans les bibliothèques de Gironde à élire leurs meilleures lectures au sein des sélections proposées. Les images pour rêver, rire à gorge déployée, tomber amoureux, frissonner dans une forêt sombre, s'évader en voiture, déjanter, déclamer des contes, palabrer dans un nouveau dialecte, contempler la vie, apprendre à bricoler, s'évader sur les toits d'une cité lointaine, bref, s'émouvoir, une promesse relevée haut la main avec une sélection pointue, joyeuse et humoristique. Une expérience démocratique. Afin de développer le goût de la lecture chez les jeunes, chaque année, Lire et Lire propose aux 6-16 ans de découvrir une sélection de titres, 12 maximum, répartis en quatre catégories, sélection jaune, bleue, verte et orange, de rentrer dans l'aventure, développer son esprit critique, argumenter ses choix et de voter dans une ou plusieurs catégories de leur choix. C'est une opération qui a du sens, se réjouit Erika Leborgne, responsable de la section jeunesse de la médiathèque de Castillon-la-Bataille. La lecture est le cœur de notre métier. Grâce à ce prix, les enfants qui ne lisaient pas se mettent à la lecture. Motivés par le chèque lire ou par les copains qui participent, une émulation se crée entre eux. Ils s'impliquent également dans les animations inspirées par la sélection. Toute l'opération leur est bénéfique. Véritable expérience démocratique, la médiathèque récupère le matériel nécessaire auprès de la mairie et le vote se déroule à la bibliothèque dans les conditions réelles de scrutin. Les enfants sont détenteurs d'une carte d'électeur, passent dans l'isoloir, déposent leur bulletin dans l'urne et signent le registre. Tout cela se fait très sérieusement. Nous procédons ensuite au dépouillement et poursuivons les festivités avec un petit goûter et la remise des chèques lire. Autour de l'opération, des animations sont également proposées par les bibliothèques en amont de l'élection pour présenter la sélection. Cette année, nos jeunes lecteurs ont ainsi pu s'initier au tricot, dessiner au fusain, participer à des fresques collectives, tisser des bracelets, créer des autos en tout genre et, dans chaque bibliothèque partenaire, profiter d'un spectacle offert par le département de la Gironde.
Lire et lire, organisé par biblio.gironde et son réseau de bibliothèques partenaires, une présentation des livres par les bibliothécaires, des ateliers, des rencontres en écho aux livres de la sélection proposée, un spectacle pour tous les participants, un chèque lire de 10 euros pour tous les votants pour acheter des livres en librairie.
En chiffres,
2000 jeunes de 6 à 16 ans, plus 70 bibliothèques du département.
Une autre compétition, le prix collégien lecteur de Gironde. Faciliter et encourager l'accès des collégiens aux livres et à la lecture. Partenariat entre le réseau des librairies indépendantes girondines et le département Direction Jeunesse, Éducation et Citoyenneté. Le conseil départemental dote les établissements participants de 6 romans jeunesse composant la sélection littéraire de l'édition. Les jeunes des clubs de lecture ou classes lisent et s'approprient les textes selon leurs propres critères. Puis ils échangent, présentent leurs arguments et élisent le lauréat du prix. Lors de la remise du prix, les collégiens rencontrent l'auteur lauréat et peuvent à cette occasion échanger avec elle ou lui sur l'aventure de l'écriture. Contact gironde.fr/collégien-lecteur. Le point de vue de Jana, 12 ans, médiathèque de Castillon-la-Bataille.
Je participe à l'opération depuis 4 ans. Dès que notre médiathèque l'a proposée, je me suis inscrite. J'adore lire. Pour le moment, j'ai lu 3 des 4 sélections proposées, mais j'espère d'ici fin mai avoir le temps de tout lire. J'ai déjà mes chouchous. Sauvage, Simon et Louise et La Cité sans nom. Pour le vote, cela se passe comme pour les élections. On prend les bulletins, on passe dans l'isoloir et on signe le registre. Et avec le chèque lire, je m'offrirai un bon roman. À l'année prochaine. Sauvage est mon album coup de cœur, avec un lion, des girafes, des éléphants, des loups, tous si beaux, mais en voie de disparition. Il explique bien comment va la planète et j'ai pu découvrir la technique du fusain et de la craie en participant à un atelier.
Le point de vue de Servane, 9 ans, médiathèque de Canéjan.
Cette année, j'ai lu la sélection jaune et la sélection bleue. Je vais une fois par semaine à la médiathèque, mais je ne suis pas spécialement une grande lectrice. J'aime les documentaires et les livres d'aventure, ceux où l'on a envie de connaître la suite. J'ai trouvé les dessins de Sauvage magnifiques. On a l'impression qu'ils sont réels, c'est très surprenant. J'ai participé à plusieurs ateliers. La fresque collective, accrochée dans la médiathèque sur l'album Bagnole, et vient fabriquer une jolie tirliti boot, mais pour comprendre, il faut lire Quackebzz. Le spectacle de Laura Truand m'a beaucoup plu également, car c'était très drôle et moi j'adore tout ce qui fait rire. Mon coup de cœur, le loup en slip. Tous les animaux de la forêt ont continuellement peur du grand méchant loup. jusqu'au jour où il apparaît en slip rayé rouge et blanc. Un slip tricoté qui tient chaud. C'est très rigolo, plein d'humour.
Et le point de vue d'Adam, 9 ans, médiathèque de Castillon-la-Bataille.
C'est la troisième année que je lis les livres de la sélection. 9 de lus pour l'instant, mais je vais bientôt avoir les autres. J'aime surtout les BD de fantasy. J'ai donc bien aimé Dans la forêt sombre et mystérieuse. J'ai trouvé décevante la fin de Simon et Louise et Minute Papillon. M'a beaucoup fait rire. Une chenille râleuse qui se prend pour un ogre, c'est très rigolo. J'ai aussi participé à un atelier de tricot pour le loup en slip. J'avais déjà essayé avec ma mamie, mais j'ai largement perdu la main, alors le loup n'a pas de culotte, mais j'ai enchaîné les mailles. J'ai adoré La Cité sans nom, une BD pour ceux qui ont un côté aventurier. Une amitié quasi impossible entre un garçon et une fille, en Chine probablement, et pourtant. Le tome 2 vient de sortir, je suis très intéressée.
Infrastructure, échangeur de la Prade, sécurité et mobilité en 3 giratoires. 20 000 véhicules empruntent chaque jour l'échangeur de l'A62 à la sortie de la Brède, l'ultime avant le péage autoroutier. Sur la route départementale 1113, le passage des véhicules a augmenté au rythme d'une démographie galopante dans ce secteur de la Gironde. Aussi, la communauté de communes de Montesquieu et le département ont mis en œuvre un projet d'amélioration de la fluidité et de sécurisation qui passe par un grand chantier se déclinant en 3 giratoires sur le secteur de la Prade. Une opération exemplaire dont le coup d'envoi a été donné au mois de mai et qui se poursuivra jusqu'en décembre sans interruption de trafic. Explication en images.
Zone d'activité. Le chantier a débuté ici en mai dernier. Seule la voie reliant la zone d'activité des Grands Pins à la route départementale 113 a été interrompue durant 3 mois, jusqu'en juillet, alors que la circulation de la route départementale est maintenue. Le choix de commencer les travaux ici permet de gérer au mieux l'opération. Ce giratoire ouvrira la voie vers Beautiran et Castres-Gironde. Carrefour de la Prade et échangeur de l'A62. Pour mettre en place ces deux carrefours, des travaux d'ampleur sont prévus du mois d'août à la fin de l'année. Les voies seront réduites en largeur et en nombre. Grâce à un basculement, la circulation sera maintenue, hors quelques brèves interruptions de nuit. Ainsi, sans gêne majeure, seront réalisés les travaux en direction de Toulouse puis de Bordeaux. gironde.fr/inforoute. Une offre multimodale. Le département profitera de cette opération exemplaire pour faire du site un carrefour de la mobilité girondine. L'offre intermodale sera développée avec la mise en place, dès l'an prochain, d'une aire de covoiturage à la Prade. Elle complétera les propositions existantes des aires d'Aigues-Mortes-les-Graves et Martillac. 50 places lui seront dévolues. Enfin, un bus à haut niveau de service sera mis en activité et bénéficiera d'une circulation privilégiée sur l'axe routier modernisé. Un chapelet de giratoires. Après le giratoire de Petit-Breton, déjà achevé, au croisement des routes d'Aigues-Mortes-les-Graves et Civrac-Saint-Selve, la route départementale 1113 sera le théâtre de la mise en œuvre de plusieurs ronds-points nouvelle génération. Dans la foulée du trio de la Prade, suivront, d'ici à la fin 2019, les giratoires de l'avenue Sable d'Experts à Saint-Médard-des-Rangs, du centre de secours à la Brède et des deux ponts au croisement des routes de Beautiran et Castres-Gironde.
En chiffres.
2 400 000 euros. C'est le montant de l'opération incluant la mise en place des 3 giratoires, 40% étant financé par le département, soit 960 000 euros, et 60% par la communauté de communes de Montesquieu.
Point de vue d'Alain Renard, vice-président chargé de la préservation de l'environnement, gestion des risques et des ressources et infrastructures routières.
Ce projet qualitatif repose sur un excellent partenariat entre la communauté de communes de Montesquieu et le département. Il permet non seulement de sécuriser un axe très emprunté, mais aussi de mettre en avant une autre façon de concevoir les modes de déplacement et de circulation. C'est l'occasion pour nous de conforter notre politique d'intermodalité de façon concrète et efficace. J'ajouterai que si l'opération Vrai Chantier Durable est conduite dans de strictes conditions de respect de l'environnement, elle est aussi porteuse au niveau de l'emploi. En respectant la clause d'insertion, nous faisons aussi travailler des personnes en difficulté sociale ou personnelle. Nous pouvons être fiers de ce projet.
Troisième partie, à la découverte. Tête de Gironde, Cédric Montagnier et Antoine Bouchard, le handicap se dissout dans l'eau. Ces deux pionniers vivent une aventure hors du commun autour du surf. Ensemble, ils se servent de leur performance pour stimuler la rencontre handi valide. Preuve que la passion n'est pas une question de handicap.
Cédric Montagnier s'est mis au surf après un accident de plage, un mauvais plongeon, un traumatisme cervical, et le voilà tétraplégique à 17 ans. À l'océan, qui lui a pourtant volé l'usage de ses jambes, de ses mains et d'une partie de ses bras, il n'a cependant pas tenu rigueur. J'ai passé un an en centre de rééducation, et c'est là que j'ai rencontré le fondateur de l'association Vague d'Espoir, qui m'a proposé une session surf. La première fois, j'ai quand même eu un petit coup de flip. Mais dès la mise à l'eau, c'était trop bon, et j'ai retrouvé des sensations super positives. L'énergie de la vague. Ce qui, à la base, était une thérapie, devient vite une vraie passion. Réapprendre à connaître son corps, à l'utiliser, reprendre confiance, ressentir l'énergie de la vague et l'harmonie avec les éléments. Le handicap se dissout dans l'eau, car il n'y a pas de fauteuil, décrit Cédric. Mais pour pratiquer, il a besoin d'un binôme. Ce sera Antoine Bouchard. Entre ces deux-là, la complicité est palpable. « Ça a marché direct, » témoigne-t-il. Et de fil en aiguille, c'est devenu une aventure humaine, une grande amitié. Antoine est là pour permettre à Cédric de remonter au pic, allongé avec lui sur la planche, puis pour le propulser sur les vagues. Redressé sur les coudes, Cédric gère ensuite sa trajectoire à la force du buste. Je dois être très tonique sur le haut du corps, car je suis toujours à la limite de la bascule, souligne-t-il. Rapidement, le tandem se lance dans la compétition, porté par leur confiance réciproque. 10 ans que ça dure. On se connaît par cœur, sourit Antoine. Il sait tout de mes capacités physiques. Et moi, je sais aussi éviter de le mettre en danger. On se complète sans avoir besoin de se parler tout le temps, précise Cédric. Cette harmonie intuitive, doublée d'une grosse préparation physique, d'un vrai sens marin et de beaucoup de lucidité, les a menés jusqu'à la 5e place au dernier championnat du monde de San Diego. Changer le regard. Habitants du bassin d'Arcachon, les deux quadragénaires s'entraînent au Carcan Océan Surf Club, COSC. Ils sont désormais concentrés sur les championnats d'Europe en septembre à Lacanau et sur les prochains mondiaux pour lesquels ils visent un podium. Toujours à l'affût, ils cherchent sans cesse du matériel adapté à l'handiglisse pour améliorer leur pratique. Façon de dire, les handis sont bien là, et il faut compter avec eux sur les spots. Adeptes d'un humour assez percutant, les deux potes ne supportent pas la condescendance et viennent bousculer les a priori. Ils interviennent régulièrement dans les établissements scolaires ou les entreprises pour faire de la sensibilisation. Quand les enfants voient Cédric qui performe, c'est bluffant et ça contribue à changer le regard, analyse Antoine. Avec une toute jeune fédération, le handisurf est en plein développement et fait figure d'exemple pour l'intégration valide handicapée. Les compétiteurs rêvent maintenant des Jeux paralympiques de Paris et poussent pour que la discipline soit incluse au programme sportif. Le surf fera son entrée au JO de 2020 à Tokyo. C'est bien là, dans un coin de notre tête. Si le handisurf est représenté aux Jeux de 2024, on y sera. Paris lancé.
Histoire. Bec d'Ambès ou Gironde, dis-moi ton nom. La Révolution française rebat les cartes. La loi du 22 décembre 1789 décide de se débarrasser des encombrantes provinces de l'Ancien Régime. La Constituante décrète ainsi le 15 janvier 1790 de diviser la Guyenne et une partie de la Gascogne en 4 départements distincts. Le découpage est simple. Pour déterminer les limites des 10 départements, chaque citoyen doit pouvoir accéder au chef-lieu en une seule journée à cheval. Vient alors l'épreuve de force du choix des noms de ces nouveaux territoires.
Les dénominations des 83 départements français sont choisies essentiellement en référence à la géographie, et en particulier par leur situation par rapport aux fleuves et aux rivières qui les traversent. Cette organisation, proposée par le cartographe et géographe Cassini, vise à homogénéiser l'administration de la France. La gestion locale doit être préservée à condition que soient abolies les spécificités issues des privilèges de l'aristocratie. L'unité française est renforcée. L'espace national est régi uniformément. Les départements sont officiellement créés le 4 mars 1790. Dans ce climat de refonte et de remous, notre département a failli ne plus jamais s'appeler la Gironde. Il fait partie des 17 territoires départementaux qui ont changé de nom depuis 1790. Mais ce sera finalement le seul qui, après cette période troublée, retrouvera son appellation d'origine. Cacher les Girondins. Sur ordre de Tallien, désireux d'effacer jusqu'au nom de ses adversaires politiques, les fameux Girondins, le territoire s'appelle département du Bec d'Ambès, du 3 novembre 1793 au 17 avril 1795, à une époque où Gironde désigne clairement l'origine d'un groupe parlementaire réuni autour des députés issus de la région de Bordeaux. À la suite d'affrontements entre les groupes de la Gironde et la Montagne, à l'Assemblée législative, les députés girondins, Condorcet, Gadet, Vergniaud, Ducos, Isnard, entre autres, seront tous arrêtés et guillotinés. Les Bordelais protesteront et Bordeaux deviendra, un temps, une ville proscrite. C'est seulement au terme de la période jacobine, le 25 germinal an 3 de la République, 14 avril 1795, que le département du Bec d'Ambès reprendra son premier nom de département de la Gironde, qu'il conserve jusqu'à ce jour. À Bordeaux, la rue de Verteuil sera baptisée sous la Révolution, rue du Bec d'Ambès. Elle conserve la mémoire de cet épisode gravé dans la pierre. Aujourd'hui, cette voie, sur l'arrière du musée des arts décoratifs et du design, a elle aussi repris son nom initial, rue Verteuil, sans la particule. Mais elle n'est pas devenue rue de la Gironde.
Archives départementales, 72 cours Balguerie-Suttenberg, 33 000 Bordeaux, 05 56 99 66 00. Archives au pluriel, .gironde.fr.
Cet article comporte 3 illustrations. La première, une gravure de Wenzel, W-E-N-T-Z-L, ouvrage d'Anne de Matan. Les Girondins en mauvaise posture, archives Bordeaux Métropole, XLV A116. Les deux suivantes ont été fournies par les archives départementales de la Gironde. Tout d'abord, une copie d'un extrait du registre des délibérations du directoire du département du Bec d'Ambès. Ensuite, une copie de la loi portant que le département du Bec d'Ambès reprendra son premier nom départemental de la Gironde. Enfin, une photo couleur nous rappelle que la rue Verteuil, dans le 4e arrondissement de Bordeaux, s'appelait autrefois rue du Bec d'Ambès. Trésor du patrimoine, dans les châteaux du pape Clément. Originaire de Villandreau, le puissant pape Clément V a laissé de nombreux châteaux à la postérité. Ces forteresses, témoins d'une époque où l'Aquitaine appartenait à la couronne d'Angleterre, dressent encore leurs fières murailles au sud de la Gironde et en entre-deux-mers, plongées au temps des seigneurs et des chevaliers.
Château de Roquetaillade, un décor de cape et d'épée. À Mazères, posée sur un tertre, cette forteresse médiévale a connu un destin hors du commun. Habitée par la même famille depuis 700 ans, le château neuf de Roquetaillade a failli être détruit pendant la Révolution, avant d'être restauré par Viollet-le-Duc entre 1862 et 1877. Les hautes murailles de pierre abritent de nombreuses pièces au mobilier issues du XIXe siècle, offrant un décor de film de capes et d'épées.
Visite toute l'année sur rendez-vous renseignements www.roquetaillade.eu.
Château de Fargues, au cœur du Sauternay. Ce palais fortifié a été construit pour surveiller la Garonne. Dévasté par un incendie au XVIIe siècle, le domaine de Fargues a fait l'objet d'une rénovation dans les années 2000-2015 par son propriétaire, le comte Alexandre de Lure-Saluces.
Visites et dégustations sur rendez-vous ou renseignements
www.chateaudefargues.com.
Fargues, F-A-R-G-U-E-S.
Château de la Trave, pour une halte féerique. Après chaque, du fier donjon, il ne reste aujourd'hui qu'un seul mur envahi par le lierre. L'ancienne maison forte de la Trave, élevée au XIVe siècle par le beau-frère de Clément V, sur une place stratégique au bord du Siron, a été presque entièrement détruite pendant les guerres de religion. Bercé par le chant des eaux, le site est propice aux balades bucoliques ou aux pique-niques en famille. Forteresse de Budos, gardienne de la vigne. Érigée par Raymond Guillaume de Budos, neveu de Clément V, la forteresse domine aujourd'hui des rangées de vignes, au bord de la route qui mène à Pujol. Ce trésor du patrimoine, racheté par le promoteur Norbert Fradin, également propriétaire du château de Villandreau, possède encore une belle allure, avec sa grande porte dominée par une tour carrée de 4 étages.
Visites en accès libre.
Château du Hamel, pour la vue imprenable. Joyau du sud Gironde, le château du Hamel surplombe la Garonne et offre une vue imprenable sur la première écluse du canal des Deux Mers. L'édifice, situé à Castets et Castillon, appartient à la même famille depuis 1660 et est ouvert aux visites depuis peu. À voir notamment la salle de garde heptagonale, les belles caves voûtées et la bibliothèque.
Visite sur rendez-vous, renseignements 06 64 33 79 74.
Château de Villandreau, la demeure du pape. Cernée par des douves larges et profondes, la demeure de Clément V est certes en moins bon état que son voisin de Roquetaillade, mais promet une véritable plongée au cœur de l'histoire mouvementée du royaume de France. Les ruines du château de Villandreau constituent un merveilleux décor pour toutes sortes de manifestations culturelles d'avril à octobre, concerts, représentations théâtrales, expositions.
Visite guidée toute l'année, renseignements www.chateaudevillandreau.fr.
Château de Camarsac, la légende du prince noir. C'est une large tour flanquée de 4 tourelles et plantée au milieu des vignes de l'entre-deux-mers. La légende raconte que le prince noir, fils du roi d'Angleterre Édouard VII, y aurait séjourné. L'élégant château appartient aujourd'hui au viticulteur Thierry Lurton.
Visites et dégustations sur rendez-vous, renseignements www.camarsac.com. Producteur de Gironde, Floriane Laville, une agricultrice d'avenir. Malgré les difficultés, la vocation agricole fait toujours des émules. Installée en décembre 2016 dans la production de fraises à Bruges, alors qu'elle n'avait que 20 ans, Floriane Laville est un exemple de ces jeunes qui font le choix d'une agriculture moderne et durable.
Un portrait dans Sud-Ouest en avril 2017, une réception à l'Élysée parmi 1000 jeunes agriculteurs le 22 février dernier, des invitations à la Foire internationale de Bordeaux et au Salon régional de l'agriculture. C'est peu dire que l'installation à Bruges de Floriane Laville comme productrice de fraises a suscité l'intérêt. Et pour cause. Quand j'ai commencé en décembre 2016, j'étais la plus jeune agricultrice de Gironde, précise-t-elle. Issue d'une famille d'agriculteurs depuis maintenant 6 générations, la jeune femme a en effet démarré son activité à 20 ans à peine. Elle a pu ainsi bénéficier du dispositif national « Jeune agriculteur » ainsi que d'une aide à l'installation et d'un appui à l'irrigation du département pour un montant de 11 000 euros. Mais c'est surtout, insiste-t-elle, à son père Philippe Laville qu'elle doit avoir pu se lancer si tôt. Conseil d'anciens et approche moderne. Mon père fait de la culture légumière et des kiwis bio. Il m'a salarié pendant 2 ans pour m'apprendre le métier, puis m'a loué 1 hectare pour que je puisse m'installer. Il m'a aussi beaucoup aidé et conseillé. C'est important d'écouter les anciens, surtout quand on n'a pas d'expérience. Sans lui, je n'aurais pas réussi, affirme Floriane. Grâce à ses conseils, mais surtout à son caractère volontaire, elle a su bâtir un projet solide, fondé sur une approche de l'agriculture dite « raisonnée ». Elle produit ainsi 6 variétés de fraises différentes, dont les récoltes s'échelonnent de la mi-avril à la fin octobre, pour 21 000 pieds. Cultivées en serre et hors sol, les fruits rouges poussent dans un substrat de tourbe et d'écorce de pin, pour recréer l'environnement naturel des fraises des bois. Des ruches de bourdon ont été installées pour permettre la pollinisation et l'herbe pousse librement dans la serre pour recréer un écosystème. On peut faire du hors-sol sans que cela soit chimique, défend-elle avec conviction. J'utilise le moins possible de traitements. Le hors-sol me permet d'éviter les nuisibles et d'économiser énormément d'eau par rapport à la culture en terre. Après avoir diversifié sa commercialisation, elle s'oriente également vers la restauration collective des collèges. Suite à 2 années de récolte seulement, elle a déjà augmenté de 500 m² sa surface de production, dès la première année. Monte une nouvelle serre qui accueillera des framboisiers l'an prochain et s'apprête à embaucher en CDI une des 2 personnes qu'elle employait jusqu'à présent en contrat saisonnier. Une belle réussite qui montre que la valeur n'attend décidément pas le nombre des années.
Retrouvez le calendrier 2018 des marchés à la ferme et des marchés de producteurs de pays sur gironde.fr. Floriane Laville, Fraisiflore, allée André Sarraud, 33 520 Bruges, 06 86 22 75 47. www.facebook.com/potalaville/. Vente directe sur l'exploitation le vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de 9h à midi.
Recette des fraises à l'anglaise.
Une bonne fraise se mange nature, mais pour les plaisirs gourmands, Floriane vous propose cette recette à lancer au dernier moment en 15 minutes. Préparez un coulis en écrasant 250 g de fraises avec une cuillère à soupe de sucre. Montez 75 cl de crème et une cuillère à soupe de sucre en chantilly. Découpez 250 g de fraises. Cassez 250 g de meringue en petits morceaux. Disposez la meringue au fond d'un verre. Ajoutez la crème, les fraises, de nouveau de la crème et enfin le coulis.
Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires. Groupe socialiste. La suppression de la taxe d'habitation ou comment rajouter de l'injustice sociale à l'injustice fiscale.
Dans son programme de campagne, Emmanuel Macron promettait la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers les plus modestes, un impôt qu'il jugeait alors profondément injuste. Aujourd'hui, cette promesse de justice sociale perd tout son sens, puisque finalement, les 20% des foyers les plus aisés en bénéficieront de la même manière. Bien loin de corriger un impôt injuste, en ne faisant aucune distinction selon les revenus, cette suppression de la taxe d'habitation vient encore creuser les inégalités sociales dans notre pays. Il s'agit ni plus ni moins d'un nouveau cadeau fiscal fait aux plus aisés, s'ajoutant à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, et à la flat tax. Par ailleurs, le gouvernement ne donne pour l'heure aucune précision sur la façon dont il compte compenser l'impact de cette décision sur le budget des communes et intercommunalités, faisant peser une grande incertitude sur les finances de ces collectivités locales. Cette décision induit qu'on les prive une nouvelle fois d'un impôt dynamique. Elle revient à nier le principe de libre administration des collectivités territoriales en réduisant leur marge de manœuvre pour définir l'ambition de leur politique publique. Un jacobinisme à peine déguisé qui amorce un retour en arrière sans précédent depuis les premières lois de décentralisation de 1982. Ces attaques asphyxient progressivement les capacités d'action des collectivités et mettent en péril les services qu'elles rendent à nos concitoyens. Si ce sont les communes et intercommunalités qui sont aujourd'hui les premières concernées, le département pourrait lui aussi être menacé demain si la taxe sur le foncier bâti, ou pire, si les droits de mutation à titre onéreux, DMTO, lui étaient retirés. À terme, c'est l'ensemble des actions que porte le département qui pourrait être remise en question. La construction des collèges ou des routes, la prise en charge des personnes âgées ou handicapées, la construction de logements pour tous, le soutien à la culture et au sport, l'insertion des personnes en situation de précarité, la protection des espaces naturels, entre autres exemples. Loin de nous l'idée de contester l'effort de réduction des dépenses publiques, auquel le département de la Gironde a déjà contribué pour sa part à hauteur de 90 millions d'euros ces trois dernières années. Nous demandons simplement à l'État de nous laisser les moyens de continuer à œuvrer pour améliorer le quotidien des Girondines et des Girondins.
Groupe politique socialiste 05 56 99 35 78 groupe-ps@gironde.fr. Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur groupe-psgironde en un seul mot.fr. Europe Écologie Les Verts. Développer l'éolien en Gironde.
Le groupe écologiste soutient et salue l'implantation des toutes premières éoliennes sur le territoire girondin à l'Espart dans le Médoc. En effet, après 7 ans d'études et de concertations établissant la solidité du projet éolien de l'Espart, autant sur le plan environnemental que social et économique, celui-ci sort enfin de terre en 2018. Le parc éolien de l'Espart, après un financement participatif associant les Médocains, va générer des impôts locaux au bénéfice du territoire. Nous espérons que les éoliennes de l'Espart sont les premières d'une longue série en Gironde, car, nous le savons, il est aujourd'hui indispensable de développer les énergies renouvelables sur nos territoires pour le climat, la biodiversité et la construction d'un futur serein pour les générations à venir.
Europe Écologie Les Verts, 05 56 99 67 03, mail betty.piccioli@gironde.fr, Betty, B-E-T-Y, Piccioli, P-I-C-C-I-O-L-I. Élu-gironde.eelv, www.eelvc.fr, facebook.com/eelvcdgironde, twitter@eluelv-8cd33, élu au cas particulier au pluriel. Gironde à venir, Valérie Ducoux, conseillère départementale de l'Estuaire. Le 5 avril dernier, durant l'assemblée plénière du CD33, une motion a été adoptée en faveur de l'assiduité des élus. Que pensez-vous de cette initiative portée par le groupe Gironde à venir ?
J'ai pleinement soutenu cette motion et je suis très satisfaite de son adoption. En tant que conseillère départementale, je tiens à être assidue, toujours présente lors des séances plénières et investie dans les commissions thématiques où je siège. Agenda 21 et développement durable, handicap et inclusion, numérique.
Vous êtes d'ailleurs à l'origine de la mise en place des visioconférences permettant aux élus de participer à distance aux réunions des commissions.
En effet, dès mon élection, j'ai suggéré la mise en place de ce système lors d'une réunion de la commission consacrée au numérique. La Gironde est un département très vaste et la visioconférence permet d'éviter des déplacements superflus. C'est bon pour l'écologie et ça permet de réduire les frais pour la collectivité.
Quelles sont vos priorités pour le canton de l'Estuaire ?
La question de la mobilité est primordiale pour la Haute Gironde. Ainsi, la réouverture de la ligne ferroviaire entre Blaye et Saint-Mariens permettrait de désenclaver la Haute Gironde et de diminuer le flux de la circulation vers la métropole. Il faut aussi étudier la possibilité de mettre en place une liaison fluviale reliant Blaye, Bourg-sur-Gironde et Bordeaux. Par ailleurs, nous avons également un manque de structures accueillant les personnes en situation de handicap sur notre territoire. Enfin, je reste attentive à la situation des collèges du canton.
Gironde à venir, groupe d'opposition de la droite et du centre, gironde-avenir.fr, 05 56 99 55 87 ou 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook. Front National, MDPH, que nous cache-t-on ? Je suis régulièrement saisi par des habitants du Nord-Médoc pour des problèmes avec la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Lenteur dans le traitement des dossiers, parfois plus d'un an, décision de médecin sans avoir rencontré l'intéressé, refus du statut d'handicapé sous des prétextes avoués d'économie budgétaire, etc. Par un courrier daté du 28 février dernier, j'ai demandé au président Glaise de pouvoir visiter cette MDPH pour vérifier la réalité de ses réclamations. Je n'ai toujours aucune réponse, alors que sont toujours en souffrance des dossiers de personnes dans des situations difficiles. On aimerait de la part du PS autant d'énergie dans l'accueil des migrants que dans la prise en charge de nos handicapés. Et j'aimerais que M. Glaise me réponde. Grégoire de Fournas, Front National, retrouvez-moi sur Facebook et sur fn-medoc.com. 07 82 32 50 94. Debout la France, le permis de louer.
Sous le couvert de protéger le locataire d'un bailleur peu scrupuleux qui n'hésitera pas à louer un logement insalubre, le permis de louer ne recèle-t-il pas la volonté du gouvernement et de l'administration fiscale de ficher encore davantage le propriétaire et son patrimoine afin qu'il n'échappe pas à l'impôt sous toutes ses formes ? Le bailleur responsable qui propose des biens à la location décents et conformes aux normes de sécurité, pourquoi devrait-il avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête prévoyant de lourdes amendes en cas de non-soumission au système ? De grâce, un peu de liberté, car comme le disait Victor Hugo, tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité.
Sonia Colmin, C-O-L-E-M-Y-N, Debout la France, 07 50 29 07 09. Agenda, le département les soutient, voici une sélection d'événements forts aux quatre coins de la Gironde. Évasion. Du samedi 16 juin au dimanche 26 août, l'Aréole.
Chemin des Arts propose une exposition interactive réunissant sculpture, peinture, graffiti, installation et projection. Voilà une belle et singulière manière de se réapproprier la ville. www.facebook.com/évasion-2018
Street Art, du jeudi 21 juin au dimanche 16 septembre, Bordeaux.
La base sous-marine de Bordeaux accueille la troisième saison Street Art, légendes urbaines, qui réunit plus de 50 artistes. Les œuvres des grands noms de cet art urbain reconnu seront au rendez-vous. Banksy, Invader, Junior, mais aussi les installations de Monkey Bird ou RL et bien d'autres. L'exposition est co-réalisée par la ville de Bordeaux, Nicolas Logéro-Lasserre, directeur de l'ICART, fondateur d'Artistique Réseau et le musée Art 42, base sous-marine 05 56 11 11 50.
Cinéma, du mardi 10 au dimanche 15 juillet, Pauillac.
Pauillac célèbre la quatrième édition du festival Les Vendanges du 7e art. Films, avant-premières, rencontres, masterclass, mais aussi expositions et projections gratuites en plein air émailleront ce rendez-vous. Cinéma, littérature, patrimoine sauront convaincre un large public, autant attiré par la compétition que le goût de la découverte.
www.vendangesdu7eart.fr Vendanges du 7e art s'écrivant V-E-N-D-A-N-G-E-S-D-U-7-E-M-E-A-R-T. Nature. Mardi 10 juillet, vendredi 27 juillet, mercredi 8 août, mardi 14 août, mardi 21 août, mercredi 29 août, Belin-Bélier, 16h.
La Leyre en canoë invite les visiteurs du parc des Landes de Gascogne à monter à bord pour découvrir les richesses du cours d'eau, sa jolie plage de sable où les bergeronnettes laissent de délicates empreintes. Gageons qu'une ou deux libellules partageront le périple ouvert à tous dès l'âge de 7 ans, à condition de savoir nager et de réserver à l'avance. Mission, tirer, éducation, @parc-lande-2-gascogne.fr 06 73 10 90 31.
Création, du vendredi 20 au mardi 24 juillet, Fargue Saint-Hilaire.
Frestoche s'annonce comme une manifestation estivale des plus originales. Elle parie sur des projets intergénérationnels, interculturels et des espaces de création. Résidences pour les 11-17 ans et journées ouvertes à tous les publics mêleront spectacles, ateliers, mais aussi avec une participation du public vivement souhaitée. À vivre sans modération sur le domaine de la fraise. www.domaine-de-la.fraise.fr Fraise s'écrivant F-R-A-Y-S-E 05 56 56 55 40.
Randonnée. Mercredi 11 juillet, mercredi 18 juillet, mercredi 25 juillet, mercredi 1er août, du 8 au 15 août, mercredi 22 août, mercredi 29 août, dimanche 23 septembre, Villegouge.
Dans le cadre des randos tapas du château Boutinet, Nathalie vous guidera à pied à la découverte des environs de son joli domaine, niché au cœur du vignoble bordelais. La randonnée se termine systématiquement par la dégustation de tapas. Voilà une proposition de pause nature qui fait du bien. www.chateauboutinet.fr Boutinet s'épelant B-O-U-T-I-N-E-T 06 85 79 56 96.
Huître. Mardi 10 juillet, mardi 17 juillet, mardi 14 août, mardi 21 août, mardi 11 septembre, mardi 18 septembre. Audenge.
Sur le port d'Audenge, avec l'huître de la tuile à l'assiette, vous visiterez une cabane traditionnelle, la cabane à Jeannot, pour évoquer le métier d'ostréiculteur d'antan et saura faire revivre les objets anciens, utilisée alors par les professionnels. Suivra une rencontre avec un ostréiculteur d'aujourd'hui, histoire de déguster les perles du bassin. Office du tourisme, cœur du bassin, 05 57 70 67 56.
Patrimoine. Samedi 4, dimanche 5 août, Sainte-Foy-la-Grande.
Découvrez ou redécouvrez tous les atouts de la Dordogne à l'occasion de la 4e édition de la fête de la rivière et du vin en pays foyen. Durant 2 jours, vous vous détendrez et découvrirez un programme riche en activités et loisirs, conçu pour qu'enfants et adultes passent un agréable moment. À ne pas manquer, acrovol, tyrolienne au-dessus de la Dordogne, marché de producteurs, village du vin, feu d'artifice. www.paysfoyen.fr.
Surf, du samedi 11 au dimanche 19 août, Lacanau.
La 39e édition du Lacanau Pro Surf s'annonce riche en émotions fortes. Étape qualificative du circuit mondial de surf professionnel, il s'agit là de la plus ancienne compétition en Europe. L'accès aux épreuves est gratuit pour le grand public. Initiation, perfectionnement et animation autour du surf sont au programme.
lacanaupro.com, lacanaupro.com. Terroir, du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre, Langon.
Avec la nouvelle édition de Paille et Ripaille, Langon sera de nouveau, le temps d'un week-end, la capitale gastronomique régionale. La dynamique céréalière, l'association Blé Farine Pain et Pain signé Poitou-Charentes donneront leur propre coloration à l'événement. De nombreux ateliers de cuisine et dégustation, mais aussi la découverte des animaux de la ferme sont au programme de ce temps de rencontre avec les vignerons, producteurs et éleveurs. www.fete-foire-salon-langon.fr. Fête, foire, salon au pluriel.
Nature, vendredi 7 septembre, Mano, Landes.
Le parc régional des Landes de Gascogne propose des formations sur les insectes dispensées par un animateur de la Ligue de protection des oiseaux Aquitaine. Celle-ci, dans la toute proche commune landaise voisine du sud Gironde, est donc consacrée à la reconnaissance des espèces de criquets, grillons et autres sauterelles, aussi appelées orthoptères. Ravissement garanti. N.Razer avec un Z @parc-land-2-gascogne.fr 05 57 71 99 99.
Marathon, samedi 8 septembre, Pauillac.
Traversant les communes de Pauillac, Saint-Estève, Saint-Julien et Saint-Laurent-du-Médoc, 8500 coureurs et plus de 30 000 personnes sont attendues pour ce marathon bien connu, atypique et déguisé. Le thème retenu cette année, la fête foraine. Au-delà du caractère festif, la course est inscrite au calendrier de la Fédération française d'athlétisme. Sport, découverte et dégustation, en somme. www.marathondumedoc.com.
Athlétisme, samedi 15, dimanche 16 septembre, Talence.
La 42e édition du Décastar dans le cadre du stade de Thouars à Talence verra en découdre les plus grands sportifs et sportives des différentes disciplines, décathlon, heptathlon, mais aussi course handisport, sport adapté et course dédiée aux jeunes. 8500 coureurs et plus de 30 000 personnes sont attendues. www.decastar.fr.
Talent d'avance. Le département valorise les pratiques artistiques des jeunes Girondins en leur offrant des espaces d'expression encadrés par des professionnels. Vous êtes réalisateur amateur âgé de 18 à 25 ans.
Jusqu'au 16 juillet, participez au tremplin départemental et proposez une production audiovisuelle originale autour du thème « Avoir 20 ans ». 5 courts-métrages seront diffusés et récompensés le 13 septembre lors du Festival des Monuments du Cinéma dans la cour du Château de Cadillac en partenariat avec le cinéma Luxe et le Centre François Mauriac. À suivre sur gironde.fr/talent-d'avance, talent au pluriel, d'avance sans apostrophe.
Gironde Mag, le magazine édité par le département de la Gironde, direction de la communication, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71-223, 33074 Bordeaux CEDEX. Téléphone 05 56 89 33 33. Directeur de la publication Frédéric Duprat. Rédacteur en chef Didier Beaujardin. Coordination Laurence Tauzin. Rédaction Didier Beaujardin, Stéphanie Coy, Sophie Dussaussois, Laure Espieux, Gwenaëlle Goyer, Elisabeth Guignot-Lebert, Amélie Colc, Clairvie Lecosic, Carole Ratier, Laetitia Soleri, Richard Zébulon. Crédit photo, Adem Descastard, Anaka, Archives Bordeaux Métropole, Archives départementales de la Gironde, Association des Amis du Chemin de Fer de la Vallée de l'Isle, Brusque Crayon, S. Carlier, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Communauté de Communes de Montesquieu, Communauté de Communes du Pays Foyen, Compagnon Bâtisseur Aquitaine, Département de la Gironde, Écosite du Bourgail, Alban Gilbert, Gironde Tourisme, Gwenaëlle Goyer, La Poste, Sébastien Leclésio, dont photo de couverture, Clévis Lecosic, Médiathèque de Castillon-la-Bataille, Punch Memory, Laetitia Soleri, Richard Zébulon. Conception graphique, Agence Bordeaux, Prépresse et Chromie, Fanny Amiro, Priscilla Audibert. Impression sur papier FSC recyclé 100%, Imaï Graphique, Laval, Dépôt légal, Apparition, tirage 799 000 exemplaires, ISSN 1141.5932. Gironde Mag est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction. Si vous souhaitez vous aussi recevoir Gironde Mag, 05 56 99 33 33, poste 37 24.
Scène d'été.
500 spectacles.
Partout en Gironde.
scènedété.fr.
Facebook.
Twitter.
Instagram.
Snapchat.
YouTube.
Gironde, le département.